VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Les Britanniques votent aujourd'hui dans un scrutin qui va déterminer leur avenir et aussi celui de l'Europe. La question posée aux électeurs, le Royaume-Uni doit-il rester un membre de l'Union européenne ou quitter l'Union européenne? Pour réponse, ils ont le choix entre deux cases à cocher. Rester ou quitter l'Union européenne. Un choix que les électeurs britanniques sont en train de faire en ce moment même, à l'issue d'une campagne passionnée axée sur l'immigration et la prospérité économique. Un nombre record de Britanniques, soit 46 500 000, se sont inscrits pour participer au scrutin. Et le résultat final devrait être annoncé dans les premières heures demain vendredi. Le oui et le non au Brexit, la possible sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, était pratiquement au coude à coude dans les derniers sondages avant le vote. Quelles seraient les conséquences d'un départ du Royaume-Uni de l'Union européenne? Tentative de réponse avec Henry Ridgewell, envoyé spécial de La Voix de l'Amérique à Bruxelles.
On ne sait pas. Si la Grande-Bretagne quitte l'UE, il va créer une longue période d'instabilité en Europe. Il pourrait prendre plusieurs années pour Grande-Bretagne à négocier sa sortie. Ici, à Bruxelles, il y a beaucoup de peur que le référendum britannique pourrait être contagieux, que d'autres pays européens exigeront leur propre référendum. Cependant, il y a certains législateurs ici qui pensent qu'une sortie britannique serait plus facile pour l'Europe de parvenir à une meilleure union.
Henry Ridgewell, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Bruxelles. Actualité aux États-Unis maintenant, un sit-in inédit dans l'histoire récente du Congrès américain. Les parlementaires démocrates ont investi depuis hier la Chambre des représentants pour exiger le vote d'un texte limitant l'accès aux armes à feu. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
C'est une fronde spectaculaire dans une institution respectueuse du protocole. Mais elle ne semble pas préoccuper le président de la Chambre, le républicain Paul Ryan. Il a qualifié le sit-in de coup de pub. En revanche, le meneur de ce mouvement, John Lewis, l'élu noir de Géorgie, a dit dans son tweet, je cite, « On doit parfois se mettre en travers du chemin ». Paul Ryan a refusé de permettre un vote sur deux projets de loi voulus par les démocrates. D'abord, sur les vérifications d'antécédents à toute vente d'armes et lors de foires ou sur Internet. Et l'autre devait empêcher les personnes figurant sur les listes de surveillance terroriste d'acquérir une arme. Les républicains ont estimé que ces deux propositions violent la Constitution qui consacre le droit de s'armer. L'impasse est loin de finir. On est encore là, nous ne partirons pas sans agir pour les victimes des armes à feu, a encore tweeté le démocrate John Lewis depuis l'hémicycle ce matin. Mais Paul Ryan a ajourné la Chambre pour deux semaines de vacances jusqu'après le 4 juillet, la fête nationale américaine.
Afrique de l'Ouest, au Niger, un activiste de la société civile condamné ce matin par un tribunal de Niamey à 6 mois de prison avec sursis pour avoir suggéré, selon l'accusation, un complot de l'armée en vue de renverser le régime en place. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a reconnu coupable le président du cadre d'action pour la défense de la démocratie et des droits de l'homme, Abdelmoumeni Ousmane, du fait de vouloir proposer un complot en vue d'un renversement du régime. Sa peine, 6 mois de prison avec sursis. Son conseil d'avocat dit avoir l'intention d'interjeter appel. En rappel, Abdelmoumeni Ousmane avait posté sur sa page Facebook ceci. Vu la gravité de la situation et les tâtonnements du chef suprême, même en tant que fervent défenseur de la démocratie, je m'observe à souhaiter que notre armée prenne son destin et celui du peuple nigérien en main. Fin de citation. C'était au lendemain de la sanglante attaque de la secte Boko Haram contre la localité de Bosso. Cette affaire du président du cadre d'action est la énième où des personnes sont interpellées et mises aux arrêts pour tentative de coup d'État. Depuis quelques jours, 3 jeunes croupissent à la maison d'arrêt de Niamey. Ils ont été arrêtés parce que l'on aurait découvert sur eux des tracts visant à un soulèvement populaire. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Et toujours en Afrique de l'Ouest, le président du Ghana, John Dramani Mahama, a qualifié de rumeurs sans fondement des accusations de corruption formulées contre lui. M. Mahama, qui brigue un second mandat en novembre, a été accusé d'avoir reçu un véhicule tout-terrain d'un entrepreneur du Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burundi, les 15 membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sont à Bujumbura depuis hier pour une visite de travail de 2 jours. Leur mission contribue au retour de la paix dans le pays. Les explications de l'ambassadeur Lazare Makayat Safwes, un des membres de la délégation.
Nous sommes 15 représentants des membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Comme vous le savez, c'est un organe en charge de la gestion des conflits qui se passent sur le territoire des États membres. Prévention des conflits, gestion des conflits, résolution des conflits. En fait, nous sommes là pour apporter un message d'espoir et de solidarité à nos frères du Burundi et essayer d'accompagner tous les efforts qui ont été entrepris jusqu'ici et de nous-mêmes faire notre propre évaluation de la situation et voir dans quelle mesure, conformément à d'autres mandats, nous pouvons accompagner les efforts qui sont faits jusqu'ici pour que le Burundi trouve une paix durable. Bien entendu, c'est un honneur pour nous de rencontrer le chef de l'État. Nous allons rencontrer également le ministre des Affaires étrangères qui est un ancien collègue, donc c'est avec un grand plaisir que nous allons le rencontrer. Évidemment, nous allons rencontrer le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, sans oublier la société civile et bien entendu les confessions religieuses également. En fait, nous sommes venus pour rencontrer, pour écouter tout le monde et voir dans quelle mesure nous aussi, conformément à notre mandat, nous pouvons apporter notre contribution à cette recherche collective d'une paix durable au Burundi.
L'ambassadeur Lazare Makayat Safwes répondait aux questions des journalistes à son arrivée à l'aéroport de Bujumbura. En RDC, condamnation de l'opposant Moïse Katumbi à 3 ans de prison pour spoliation immobilière. Les avocats de M. Katumbi, qui avaient déjà été inculpés pour recrutement de mercenaires, ont interjeté appel, dénonçant un jugement sans procès. Le groupe du G7, qui regroupe 7 anciens partis de la majorité présidentielle ayant rejoint l'opposition, dénonce lui aussi ce qu'il qualifie de harcèlement visant à éliminer un candidat déclaré pour la prochaine présidentielle. Pour Gabriel Kiongowa Kumwanza, un ténor du G7, il s'agit tout simplement d'un complot. On l'écoute.
M. Katumbi n'est concerné en rien. Il est tout simplement harcelé par le pouvoir en place du fait qu'il a postulé au poste de président de la République pour les prochaines élections. Tout maintenant est mis en place pour empêcher M. Katumbi de rentrer au pays et de briguer le mandat du président de la République.
Gabriel Kiongowa Kumwanza, l'un des dirigeants du G7, joint à Lubumbashi en RDC. Et puis en Centrafrique, l'opération française Sangaris arrive à son terme avec la réduction des effectifs à 350 soldats seulement. Cette opération avait été lancée pour ramener la paix dans le pays au lendemain des violences intercommunautaires et son bilan est mitigé en raison des scandales d'abus sexuels et de sévices physiques perpétrés par quelques éléments du contingent français. On écoute la réaction de Jean-Fernand Kouena du journal Le Confident à Bangui.
Sur le plan sécuritaire et sur le plan désarmement qui a été le socle même de leur mandat, ils n'ont pas rempli ce devoir-là. Et aujourd'hui, la RCA se trouve dans une situation de ni paix ni guerre, mais la RCA se trouve sur un volcan. Les forces françaises se sont adonnées à cœur joie à des violences sexuelles. Malheureusement, le droit international n'a pas laissé la chance de voir ceux qui sont encore présumés coupables être jugés, ce que tout le Centrafricain aujourd'hui déplore et regrette.
Jean-Fernand Kouena du journal Le Confident à Bangui. Et pour terminer, le Cameroun a commencé la suspension des numéros de téléphone non identifiés une semaine avant le délai réglementaire accordé par l'État. Cette décision a été prise pour lutter contre la fraude et l'usage des numéros non identifiés par le groupe Boko Haram dans la coordination de ses activités. On écoute Hilaire Kamga, haut responsable au ministère camerounais des Postes et Télécommunications.
Des mesures ont été prises progressivement parce que dès le 10 juin, certains numéros ont déjà fait l'objet de suspensions. Il s'agissait notamment des numéros pour lesquels on n'avait pas de données du tout, donc pas d'identité, pas de personne à qui ce numéro appartient. Mais je dis le délai, il est unique, c'est le délai du 30 juin. C'est-à-dire qu'au-delà, c'est-à-dire dès le 1er juillet, ceux qui ne se seront pas présentés pour cette mise à jour, pour une identification, se verront suspendus.
Ilia Kamga, haut responsable au ministère camerounais des postes et télécommunications.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.